Il y a quelques semaines de ça, j'étais à une soirée où il y avait d'autres entrepreneurs et c'est la première fois que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Ah Manoa, j'adore ce que tu fais, enfin surtout j'adorais ce que tu faisais, tes anciens podcasts, tes anciens mails, c'était vraiment incroyable, maintenant je trouve que c'est moins bien et c'est dommage. » Et c'était la première fois qu'on me disait ça, surtout en face, le truc de « c'était mieux avant ». Et alors il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout aimé, apprécié le tournant que j'ai pris avec l'OFM, OnlyFans, Mime, mon SaaS, ma plateforme Demoiselle, etc. Et c'est complètement OK. Mais lui n'en faisait pas partie. Et c'est pour ça que ça m'a interpellé et intéressé. C'est que lui pensait simplement que les contenus que je faisais avant, quelle que soit la niche, la thématique, etc., étaient assez objectivement mieux que ceux que je fais aujourd'hui. Et du coup, je me suis intéressé, je lui ai posé des questions, surtout pourquoi en fait? Qu'est-ce qui te fait dire? Enfin, qu'est-ce qui te faisait préférer avant comparé à maintenant? Et en fait, ce qui était intéressant dans la discussion, c'était qu'il me parlait justement de petits hacks que j'avais donnés. Parce qu'avant, je parlais beaucoup de persuasion, de petites stratégies de vente, etc. Et en fait, il avait un sentiment que j'ai nommé, donc en réfléchissant a posteriori, la nostalgie ésotérique. Alors, ésotérique, ça veut dire quoi? C'est en gros propre aux initiés. Et en fait, tout le monde a ce sentiment-là à une échelle plus ou moins grande, qui fait que, eh bien, lorsque tu écoutes par exemple un artiste qui est très peu connu, au bout de 3 ans où toi tu l'as écouté, tu as été dans les premiers à le découvrir, etc., au bout de 3 ans, lorsqu'il pète grâce à des sons un petit peu plus commerciaux, tu es toujours un petit peu en mode Ah, moi je l'écoutais avant, j'avais découvert avant qu'il soit mainstream, c'était mieux avant, ces sons, là il fait du commercial, etc. Et en fait, c'est exactement pareil pour les créateurs de contenu comme moi, c'est-à-dire qu'ils préféraient largement avant, quand j'étais moins connu dans l'entrepreneuriat, que j'étais moins broad, entre guillemets, que j'avais une audience beaucoup plus petite mais beaucoup plus qualifiée, et ils préféraient les contenus où en fait je parlais de manipulation, de psychologie, de vente d'infoproduits. Et ce qui est drôle, c'est que moi honnêtement, je compare mes contenus auparavant à ceux que je fais maintenant. Je trouve que c'est 1000 fois plus pertinent maintenant parce que aujourd'hui, en fait, j'aborde, on va dire, les sujets avec une vision beaucoup plus globale. Avant, en fait, j'étais dans un petit marché et du coup, je faisais des petits hacks, des petites stratégies, des petites filouteries marketing à droite à gauche. En fait, les gens adoraient ce côté récompense immédiate, ce truc un petit peu secret, controversé, etc. Sauf qu'en fait, à mesure que tu avances dans l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas le petit hack, c'est pas la petite écriture à l'envers ou le petit mot entre parenthèses ou la petite virgule ou le petit trait rouge pour ceux qui ont la ref. Ce qui compte, ce qui fait un business, c'est pas, pour faire la comparaison, la marque de parquet dans le bateau, tu vois. Ce qui va compter pour atteindre la destination, c'est le cap que prend le navire lorsqu'il part du port. Et c'est ça que j'essaye de faire passer à mon audience et où il y a beaucoup de mal parce qu'il y en a qui me suivent depuis 2019, 2020. Ça fait donc 4 ans pour certains et c'est très long. Et ils m'ont vu prendre plein de chemins différents et parfois ils ne se reconnaissent pas forcément dans les contenus que je fais aujourd'hui. Alors qu'en fait, les contenus que je fais aujourd'hui sont bien plus pertinents pour un entrepreneur qui a une vision long terme et qui ne fait pas juste du bricolage entre guillemets sur Internet. Mais il y a ce truc de nostalgie ésotérique où les gens, lorsqu'ils ont connu un artiste, un entrepreneur, un créateur, une marque, peu importe, avant tout le monde, eh bien, il y a une forme d'instinct tribal de « je l'ai connu avant, c'était mieux avant », etc., etc. Mais beaucoup d'entrepreneurs, justement, ne comprennent pas que l'essence d'un business, voilà, c'est pas le petit hack, c'est pas la petite stratégie, c'est pas la petite technique de vente un petit peu insidieuse, etc. Mais c'est des grands principes. Par exemple, moi, là, je travaille beaucoup à comprendre où va aller le marché du X, comment va évoluer l'industrie du charme. Et en fait, plus tu avances dans l'entrepreneuriat, et peut-être que tu n'es pas en mesure de le comprendre, de le voir maintenant, et c'est tout à fait OK, ça arrivera à un moment donné, mais à ce moment-là, il faudra que tu sois prêt, quoi, faudra que tu en sois conscient. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne réfléchis plus du tout en ah putain, l'appel à l'action du mail, est-ce qu'il doit être un tout petit peu plus incisif, un petit peu plus agressif, est-ce que je dois mettre un mot entre parenthèses, etc. Je porte beaucoup moins attention à ce genre de détails et en fait, c'est ce que j'avais utilisé un petit peu pour me faire connaître au tout départ. Donc les gens, ils se sont dit putain, mais il fait plus ça, ses mails c'était mieux avant, quand il faisait de l'emailing quotidien, etc. Mais en fait, ils ne comprennent pas, et peut-être que toi, du coup, tu ne comprends pas actuellement, que lorsque tu veux scale, lorsque tu veux grossir, lorsque tu veux vraiment faire du vrai business, entre guillemets, à une échelle beaucoup plus grande, tu ne peux plus te permettre, par exemple, d'écrire un email toi-même par jour. C'est impossible, en fait. À part si c'est l'essence même de ton business, tu ne peux plus faire un email privé quotidien. À la rigueur, tu peux faire du LinkedIn parce que ça fait de l'acquisition, mais tu peux pas te permettre de garder les petits trucs que tu faisais, qui te prenaient un temps fou, mais que tu aimais bien faire pour le goût du détail, comme tu le faisais avant, quoi. C'est plus possible. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je réfléchis beaucoup plus en termes de vision globale, économique, philosophique et psychologique que le petit hack de machin. Par exemple, là, donc pour mon gros projet de 2024, qui est ma plateforme Demoiselle, qui sort dans 1 ou 2 mois, oui, je vais forcément travailler un petit peu les fonctionnalités de vente, les outils marketing, évidemment. Mais je vais pas me dire, ah putain, est-ce que ce mot dans les CGV, je vais le mettre entre parenthèses ou pas, tu vois. Et c'est assez marrant de constater que quoi que tu fasses en tant que créateur de contenu, tu as forcément des gens qui seront en mode « c'était mieux avant » parce qu'on a tous en fait un moment avec un créateur de contenu qui va correspondre à une époque de notre vie. Tu vois, moi je me souviens, si je te prends l'exemple de Lucas, de Squeezie, j'ai commencé à le suivre quand j'étais très jeune et donc moi je l'ai forcément associé à cette période. Et donc moi aujourd'hui je suis en mode « ah c'était le prime, c'était le machin ». Mais en fait, pas forcément. Ce qu'il fait aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, construit, pertinent, même drôle qu'auparavant. Mais vu qu'il y a une forme de certaine nostalgie, etc., on a toujours un peu ce sentiment-là de « ah, c'était mieux avant, ah, cette époque, c'était cool, etc. » Mais en fait, parfois, il faut comprendre que un créateur de contenu qui fait bien son taf, qui est bon, il a besoin d'évoluer. J'en parlais dans le message Telegram audio que j'ai fait hier où je parlais d'Antoine BM. Et effectivement, Antoine BM, par exemple, il a quand même très peu évolué dans son business. C'est-à-dire qu'il fait la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ça, quand tu es entrepreneur dans le digital, c'est quelque chose qui doit t'alarmer. Si tu es toujours en train de faire exactement la même chose à quelques détails près qu'il y a 10 ans, c'est probablement que tu fais un truc mal, tu vois. Je comparais nos chiffres encore une fois, mais lui, je crois qu'il a fait 800K, moi j'ai fait 600K en 2023. Sauf que lui, il y a de la TVA, de la publicité, des équipes. Et moi, il n'y a pas de TVA, pas de publicité, et j'ai un monteur et une assistante, quoi. Donc, en fait, on a fait sensiblement les mêmes chiffres, alors que lui a sorti 1 à 2 formations par mois, nouvelles formations, hein, sans compter les promos, etc., qu'il a une liste email de plus de 40 000 personnes. Moi, j'en ai 8 000. Et c'est très intéressant, en fait, de voir que des gens, moi, par exemple, que j'ai pu beaucoup, beaucoup admirer auparavant, par le passé, en fait, plus tu montes, plus tu les descends un petit peu de leur piédestal parce que, bon, globalement, personne n'est parfait, hein, ça c'est logique, mais surtout que lorsque tu montes, lorsque tu augmentes en compétences, lorsque tu level up dans ton business, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup, 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 que ce soit d'infopreneurs, d'entrepreneurs, de pseudo-entrepreneurs à succès, par exemple sur LinkedIn, etc., qui sont pas aussi bons que tu le pensais. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire largement mieux qu'eux. Et je ne sais pas exactement où je veux que ce podcast aille, mais je t'invite vraiment. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Go broad or go broke », que j'applique énormément d'ailleurs en ce moment. C'est-à-dire que sur le long terme, c'est jamais les petits hacks, les petites stratégies, les petits principes de manipulation, etc., qui vont faire si ton business il finit à 10 millions ou à 1 million, quoi. Ça va être les grandes stratégies, les grands axes, les grandes décisions. Et en fait, c'est pour ça que moi, ça m'énerve de voir des gens qui vont passer leur vie sur des vidéos « 7 habitudes de multimillionnaires » de Yomi, alors qu'en fait, le vrai game, ce qui est super intéressant, c'est ce qu'il va dire dans « Sans permission ». Mais vu que c'est 2h30 de contenu, etc., les gens ont la flemme, donc forcément, les gens vont se diriger vers du fast-food, en fait, de l'information. Il y a une sorte de... C'est très intéressant, ça. Depuis 5 ans, on constate qu'il y a une sorte de boulimie de l'information où les gens vont, en fait... prendre le truc de se former au pied de la lettre et ne faire que consommer tout et son contraire. Et pareil, ça donne lieu à des gens du coup qui consomment trop et qui sont perdus parce que quand tu consommes trop de choses, forcément, il y a des conseils qui vont être contradictoires. Il y a d'ailleurs quelqu'un là qui m'a envoyé un message, enfin qui a envoyé un message à soigner au support, qui me l'a rapporté derrière et qui était en mode « Ouais, je comprends pas, dans la formation Only Cash, il y a des informations contradictoires, c'est n'importe quoi. » Et du coup, Soigny, mon assistante, lui demande « qu'est-ce qu'il y a de contradictoire ?» Et le mec répond « ouais, en fait, sont enseignées 2 méthodes pour, par exemple, acquérir du trafic sur OnlyFans, etc. Et il y en a des gratuites et des payantes, donc des organiques et des avec de la publicité Facebook, etc. Donc, pourquoi on enseigne 2 choses opposées ?» Et en fait, c'est ça qui m'atterre, en fait, beaucoup. C'est qu'il y a des gens qui sont incapables de concevoir que tout marche selon le business model, selon l'approche que tu prends, selon tes facilités, selon ce qui est en puissance en toi, selon ce que tu es plus apte ou à l'aise de faire, etc. Vendre en montrant son visage, ça marche. Vendre sans montrer son visage, j'en suis la preuve, ça marche. Faire un business en organique, ça marche. Faire un business sans organique, full pub, ça marche aussi. Mais en fait, les gens sont tellement des moutons. Ils sont tellement abreuvés par une boulimie d'informations continues et incohérentes, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que le monde est fait de nuances, que tu dois leur dire « ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Et oui, en fait, tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, si tu fais partie des anciens, entre guillemets, ce podcast est plutôt adressé. Si tu es un mec qui me suit depuis longtemps et que tu fais partie de ceux qui se sont dit ah, c'était quand même mieux à l'époque des emails quotidiens. Ah ouais, les podcasts vie sur mesure audio, c'était vraiment super avec des petites anecdotes historiques, des petits principes, des petites techniques, des petites méthodes, des petits hacks. Oui, c'était génial. Mais parce que c'était déjà une autre époque et parce que j'étais là où j'en étais à ce moment-là. C'est-à-dire que je pouvais pas me ramener et utiliser mes chiffres pour appuyer des conseils globaux que j'avais donnés. Du coup, j'étais obligé de trouver des choses extrêmement nouvelles, extrêmement controversées, un petit peu contrariennes, etc., contre-intuitives, pour que ça résonne et que les gens se disent « Ah, ça, je ne l'ai jamais vu nulle part. » Maintenant que j'ai fait ce que j'ai fait 1,8, toutes boîtes confondues depuis 3-4 ans, j'ai la légitimité de donner des vrais conseils. Et ça déplaît aux gens parce que eux, justement, ils veulent le petit hack, le petit machin. Mais je t'en prie, consomme mes interviews, mes contenus longs, même les reels qui sont tirés des interviews, parce qu'en fait, il y a 1000 fois plus de valeur là-dedans que dans mes podcasts à l'ancienne. C'est juste qu'avant, je travaillais énormément le fond dans... comment je pourrais dire ça? Pour que ça soit bien consommable, que ça imprime. Avant, tu vois, je ne me contentais pas de donner un conseil. Je donnais une anecdote avec ça et puis je donnais un petit hack, un truc un peu applicable, etc. Mais encore une fois, il y avait un petit côté fast-food et tu t'en rendais pas compte. Aussi parce que je teasais vachement les podcasts. En début de podcast, je disais « là, ce que tu vas apprendre, c'est vraiment fou, etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je dis aujourd'hui, ça permet de créer un business qui fait 1 million par an. Ce que je disais avant, ça permettait de gagner 20 balles en plus par jour. Ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais toi, tu dois commencer à bâtir ta forteresse en construisant des fondations solides dès le départ. Et donc, mes contenus d'aujourd'hui, ils sont bien plus orientés comment créer un gros business qui génère du cash dès le départ avec des fondations solides, faire un truc sérieux, pro, etc. Et en fait, moi, j'aurais largement préféré, quand je me suis lancé, avoir mes contenus, mes conseils de maintenant que ceux que je donnais auparavant. Parce qu'effectivement, moi, les contenus, les conseils que je donnais il y a 4-5 ans, ben en fait, c'est des choses que j'avais apprises juste avant. D'accord, que j'avais découverte via mes tests, via des formations, etc. Et donc, je recrachais un petit peu ça parce que je trouvais ça intéressant. Mais là, les conseils que je donne aujourd'hui, même s'ils sont moins, entre guillemets, excitants, parce qu'il n'y a pas la petite technique, le petit machin un petit peu sexy, en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est bien plus pertinent et ça va bien plus te permettre de créer un business qui crache du cash qu'avant, lorsque je te parlais de la technique de l'ennemi commun, tu vois. Par exemple, il y a le biais cognitif donc de l'ennemi commun qui fait que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, en gros. Et ça, je faisais un podcast de 15 minutes pour l'expliquer, mais parce que le marché était beaucoup moins éduqué, que pareil, moi aussi, j'étais beaucoup moins éduqué. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que même si tu as une sorte de nostalgie ésotérique très subjective et très irrationnelle concernant mes contenus, en fait, si tu es factuel, ce que je t'enseigne aujourd'hui, même dans mes contenus gratuits, hein, les interviews, tu as des passages qui sont, je pense, extrêmement pertinents dans la création de business. C'est beaucoup, beaucoup plus enrichissant, ça a beaucoup plus de valeur que ce que je donnais avant. Mais c'était plus excitant avant, parce que aussi j'avais la fougue de la jeunesse, c'est-à-dire que je me lançais, j'avais la dalle de malade parce que j'étais... mes premiers podcasts, je les ai fait au lycée, hein, je crois que j'avais 16-17 ans. T'écoutes mon premier podcast et tu remontes, j'ai 16-17 ans et je crois que c'est 2018-2019. Et donc forcément, j'avais une fougue qui n'était pas la même, mais j'avais aussi une expérience et un montant de connaissances globales qui était largement moindre par rapport à maintenant. Et donc, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui ont été un petit peu déçus du tournant que ça a pris en termes de contenu, mais il faut que vous compreniez que ce qui m'a amené de 0 à 1 ne m'amènera pas de 1 à 10. Et ça vaut pour toi. Ce qui t'a amené de 0 à 1 ou ce qui va t'amener de 0 à 1, c'est pas ce qui va t'amener de 1 à 10. Et ça, c'est très important à comprendre. Et on peut faire la comparaison avec les millions, tu vois. Ce qui t'amène à ton premier million, c'est jamais ce qui t'amène à ton 10e million, en fait. Jamais, enfin, quasi jamais, en tout cas. Ou alors, c'est quelque chose que tu fais mal parce que, en fait, là, tu fais une Antoine BM. C'est-à-dire que tu as fait un million, tu dis, bah, je vais juste répéter ça encore et encore. Alors que le vrai game, il se situe toujours dans le prolongement de ce que tu fais déjà, mais au niveau d'au-dessus. C'est le fameux Reels que j'avais posté, c'est la méthode Yomi Dedzen et Matt Ganzi. C'est tu crées tu montes un business de vente de produits, de vente de services, de vente d'infoproduits, peu importe. Tu fais de la thune avec ça. Ensuite, tu documentes et tu crées du contenu autour de ce business-là pour vendre un infoproduit, une formation, etc. Donc là, tu commences à monter dans un game où ça rapporte pas mal. Donc moi, j'ai fait première étape, agence OnlyFans. Deuxième étape, formation pour créer son agence OnlyFans. Et la troisième étape, c'est celle où tu fais le plus de thunes. C'est un truc au-dessus que tu vends aux gens de la formation. Donc moi, dans mon cas, c'est Demoiselle, c'est-à-dire une plateforme comme OnlyFans, mais en mieux. Et j'ai pas peur de le dire, vu les fonctionnalités qu'on a mises, c'est mieux, tu vois. Et que je vais proposer aux membres les plus successful, de la formation. Et là, en fait, tu vas chercher de la valo, tu vas chercher du recurring, tu vas chercher du revenu asynchrone, c'est-à-dire qui ne dépend pas de ton temps, parce qu'on dit ce qu'on veut, mais là, avec mon business d'infoproduit, oui, je suis très bien payé, je gagne très bien ma vie, j'ai un chiffre d'affaires très sympa, mais je dois quand même publier du contenu régulièrement. Alors ça va, il y a pire comme métier, on est d'accord. Je dois faire des promos, je dois faire des emails, je dois faire des interviews, je dois faire des reels, des stories, etc. Et c'est pas asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a une... Moi, j'aime bien créer du contenu au jour le jour pour que ce soit du vrai contenu, tu vois. Je suis pas du genre à faire comme faisait Théophile Eddy à l'époque, c'est-à-dire il se prenait deux jours, il enregistrait toutes les vidéos de l'année. Voilà, d'un coup, c'était une usine. Et puis après, bon, il faisait plus rien. Moi, je pense que le vrai contenu, c'est celui qui est adapté aux actualités, qui est récent, qui est en fonction de ce qui t'arrive dans ta vie. Tu vois, là, moi, je pense que mes dernières interviews, elles sont ultra riches pour quelqu'un qui veut, par exemple, monter un SaaS ou alors lancer son agence OnlyFans. Et ce que je dis dans ces interviews-là, j'aurais pas pu le dire il y a 4 mois. Donc, c'est aussi pour ça que je veux garder ce côté création de contenu quotidiennement, assez spontanément. Moi, j'aime beaucoup le côté spontané. C'est ce que j'aimais d'ailleurs chez Antoine BM. C'est le fait de se lever. Il y a une news qui est sortie il y a 3 jours ou un nouveau problème avec une plateforme ou avec la vente de formation, etc. Et donc, il y a un contenu qui est actualisé, qui est actuel. Et c'est ça qui est très chouette. Mais à long terme, comme je l'ai dit dans mon message vocal Telegram d'hier, c'est pas tenable en fait. Enfin, un vrai entrepreneur, il se dit pas « Ah ok, bah, y a ce que je fais, ça marche. Bon bah, je me contente de le répliquer encore et encore, mois après mois. » Le but, c'est d'aller chercher de nouvelles choses. C'est Tate d'ailleurs qui disait « Having things isn't exciting, but getting them, it's exciting. » C'est en gros, avoir des trucs, c'est pas trop marrant, mais par contre, les obtenir, le processus de les obtenir, c'est excitant. Et en fait, le problème... majeur des gens qui commencent l'entrepreneuriat et qui découvrent justement toute cette sphère-là, c'est qu'ils se disent « Ok, mais l'agence OnlyFans, est-ce que ce sera un business qui existera toujours dans 10 ans ?» Non ? Bah alors ça vaut pas le coup. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas compris fondamentalement le monde et l'économie dans lesquelles ils vivent. Et c'est extrêmement dommage. Et ce point de vue, cette vision globale, c'est pour ça, avant, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, la vision, etc. Et maintenant, je comprends. C'est qu'une vision globale, c'est essentiel pour entreprendre sereinement et intelligemment. Moi, je sais pertinemment que je ne ferai pas la même chose dans 5-10 ans. Et le fait de ne pas savoir ce que je ferai exactement dans 5-10 ans, c'est plus excitant que terrifiant, tu vois. Sauf que les gens, en fait, ils ont été éduqués par un logiciel très scolaire, très français, très parental de... tu fais tes études et puis après, tu as un métier toute ta vie. Du coup, si tu leur dis, bah non, le business OFM, je ne sais pas si ça existera dans 5 ans. Alors, le marché du X existera toujours. Hein. C'est sûr qu'il y aura forcément quelque chose qui rapportera énormément dans cette industrie-là, même plusieurs choses. Mais est-ce que le business OFM en tant que tel qu'on le connaît aujourd'hui, sera exactement pareil et rapportera autant? Je n'en sais rien. Mais en fait, à la rigueur, on s'en fout. Parce que si tu passes à l'action maintenant et que tu coffres pendant 3 ans, tu auras le temps, encore une fois, de voir venir. Et beaucoup de gens, justement, n'ont pas cette capacité. Et c'est d'ailleurs ce que, pas je reproche, mais ce que j'ai dit plusieurs fois à mon associé Candy sur une boîte qu'on a ensemble qui s'appelle Olympe et qui fait du 20-25K par mois avec quelques pics à 30, 33, etc. Je lui ai dit, mais arrête de consommer du contenu fast-food à la 3 hacks de productivité, 6 astuces pour créer du contenu du machin. On s'en fout en fait. Lorsque tu atteins un certain niveau de chiffre d'affaires, alors ça peut être bien, toi à ton niveau, si tu commences l'entrepreneuriat, ça peut être génial de consommer que des trucs très concrets, très business. Mais à mon niveau, ce qui explique aussi mon changement de ligne éditoriale, de contenu posté, etc., ce qui est intéressant, que ce soit pour moi ou pour mon audience à long terme, je l'estime, c'est pas le hack, c'est pas la petite technique, c'est pas le petit biais cognitif, la petite technique de vente. Non, ce qui est intéressant, c'est des grands principes, des grandes décisions, des grands problèmes que j'ai rencontrés et que je partage et que j'explique la manière dont j'ai pu, slash, su les gérer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ce que je dis à Candy à chaque fois. Je dis, mais arrête de consommer des créateurs de contenu qui te font du fast-food à la Yomi et va plutôt chercher des reportages sur l'histoire, des podcasts de 3 heures sur un philosophe, par exemple, pour étudier une pensée. Lis des livres d'économie. C'est ça, en fait, qui te permet de comprendre le business de manière générale. Parce que comprendre le business en ligne, en profondeur, avec des hacks, des machins, c'est très bien et ça permet de faire du cash. Sauf que tu développes quand même une capacité de compréhension du monde et donc d'adaptabilité qui est pas ouf. Parce que, encore une fois, le business en ligne va vachement évoluer et dans 5 ans, tu feras absolument pas ce que tu fais aujourd'hui. A priori, en tout cas. Et je te le souhaite, parce qu'il faut toujours évoluer, sinon ça veut dire que tu stagnes. Tu vois, le business en ligne, un business, c'est comme un muscle. Il n'y a pas de stagnation. Même économiquement, si tu restes au même CA pendant 5 années de suite, avec l'inflation, tu gagnes moins, tu vois. Et c'est comme un muscle, c'est-à-dire que soit il s'atrophie, soit il grossit. Mais il n'y a pas de stagnation pure et dure, ça n'existe pas la stagnation dans notre monde. Et donc, je ne sais plus en gros pourquoi je disais ça, mais tout ce qui va être vision globale avec réflexion psychologique, économique, philosophique, in fine, ça apporte et donc ça rapporte beaucoup plus que les petits hacks, etc. C'est pour ça que moi, je t'invite très franchement à consommer davantage de contenu autre que le business parce que justement, on en revient à ce que je disais dans l'interview que j'ai faite avec Simon qui s'appelle en gros Impôts, Dubaï, Immigration, un truc dans le genre. Donc voilà, ça annonce la couleur. Et je disais que consommer des contenus autres que le business en ligne, donc tels que de la philo, de l'éco, de la socio, etc., ça te permet d'avoir plus de points à relier. D'accord ? C'est Steve Jobs qui disait qu'en gros, l'intelligence, c'est la capacité à relier des points, à faire des rapprochements entre des choses qui n'ont rien à voir, parce que justement, à force de te cultiver, à force d'apprendre, de découvrir des choses différentes et nouvelles, eh bien, tu as de plus en plus de points. Et si tu as un peu de QI, si tu as un peu de bon sens et à force de simplement faire cet exercice intellectuel-là, tu peux relier des points. Et tu peux avoir des perspectives que ta concurrence, qui est Dubaïote, tu vois, qui est juste en mode Stripe, Notif, vendre, ils n'auront pas. Et en fait, c'est un avantage concurrentiel qui est énorme. Qui est énorme. Avoir de la culture économique, une compréhension de la dynamique sociale, des théories philosophiques, etc., ça te donne un bagage intellectuel qui est énorme. Moi, par exemple, pourquoi est-ce que les gens me font largement plus confiance pour enseigner l'OFM que les mecs de Dubaï ? Parce que tu sens qu'il y a une différence intellectuelle. Alors que je suis loin d'être un Einstein, tu vois, mais juste, tu sens que, à ma manière de parler, à ma façon de m'exprimer, aux références que je fais, à la manière dont je présente ce business-là, tu sens qu'on est très loin du « tu prends des meufs sur OnlyFans et puis machin », tu vois. Non, tu dis, bah voilà, tu as des collaboratrices avec lesquelles tu travailles, tu fais une prestation de service contractuelle, voilà. Tu vois, même dans la façon de s'exprimer, dans la vision globale, il y a une différence énorme. Donc voilà, petit podcast pour t'expliquer pourquoi j'ai autant changé de contenu, pourquoi ça peut beaucoup plus t'apporter que ce que je faisais avant, même si ton cerveau te dit l'inverse, à cause de ce phénomène de nostalgie ésotérique. Et petit conseil de fin, cultive-toi plus globalement et une vision plus large. Apprends là où tes concurrents n'iront jamais, parce que c'est ça qui va te permettre, moi je l'ai vu avec Demoiselle, hein, toutes les fonctionnalités qu'on a amenées, toute la réflexion qu'on a eue sur l'UX, la présentation, le positionnement, le branding, etc., c'est pas des trucs que j'ai appris dans les formations. C'est des trucs que j'ai vu dans des documentaires, dans des livres, etc. Et c'est le mix de tout ça qui m'a permis d'avoir des idées nouvelles, fraîches, etc. C'était Manuel de Fortumedia. À bientôt.